Ce que je vais vous présenter ce matin pour le message, je vais peut-être faire une entorse, peut-être deux, mais avec moi vous avez un peu l'habitude, donc c'est bon, une fois de temps en temps. Mon message n'est pas complètement construit, et je me suis dit, bah, je vais vous faire travailler, d'accord? Et vous faire travailler le dimanche, c'est pas franchement terrible, hein, parce qu'on travaille pas le dimanche. On en parlait tous les deux avec Annette là tout à l'heure, et alors on a eu des réactions qui étaient très... des informations qui étaient très différentes. C'est notamment une de nos filles qui est à la maison là, le week-end, et elle s'est rendue compte hier soir, parce qu'elle était engagée dans cette kermesse dans laquelle on a œuvré hier, et notre fille s'est aperçue qu'il lui manquait quelque chose d'alimentaire pour repartir à Metz ce soir. Et Annette lui dit, bah, écoute, tu peux encore y aller demain matin, le magasin est ouvert demain matin. Non, je ne fais pas mes courses le dimanche. J'étais très impressionné de voir cela. Et quand on est rentré, là, on parlait d'une famille qu'on a beaucoup à cœur et qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et je dis, mais oui, on ne les a pas vus depuis un moment parce qu'ils se sont lancés à retaper leur maison. Et donc, ils passent tout leur week-end à retaper la maison, une maison qu'ils habitent depuis quelques mois, peut-être un an maintenant. Mais il y a des travaux. Enfin, ils ont habité dans un taudis. Après, c'était du camping. Maintenant, c'est un peu plus viable, mais ce n'est pas encore au point. Voilà. Donc, on a des pensées qui sont différentes. Petites églises, j'y tiens beaucoup, mais je reviens à mon message. Travailler, réfléchir ensemble. Nous avons dans une cellule, comme on dit chez nous, un groupe d'études publiques, nous avons eu à cœur de pouvoir étudier un chapitre par rencontre et de commencer par la Genèse. Une fois terminé la Genèse, le groupe a souhaité qu'on poursuive Genèse et Exode. Et je me suis dit, c'est bien, ils veulent savoir le début. J'ai fait de bonnes révisions et de bonnes découvertes et ça m'a fait du bien. Mais alors après, ils m'ont eu, parce qu'ils ont voulu continuer. Et après Exode, il y a Lévitique. Je me suis dit, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que on est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et après Lévitique, on fait quoi? Alors il y avait quelqu'un qui était là ce soir-là, le soir où on a choisi quelqu'un qui était de passage, le soir où on a choisi quel était le livre qu'on allait étudier après, et il y a quelqu'un qui a dit, bah, pourquoi on ne continue pas? Et la personne qui était là a dit, non mais pas les nombres, il n'y a rien que des noms à l'intérieur et des chiffres, vous allez vous y perdre. Non, on continue. Quand vous avez avalé Lévitique, qui a déjà fait Lévitique en entier en études bibliques? C'est rare, c'est quand même assez rare. Je dois dire, j'ai beaucoup appris. Mais j'ai appris aussi une chose. C'est que on va parler des sacrificateurs. Et on va parler de l'habillement des sacrificateurs. Et on va parler du travail des sacrificateurs. On va parler de ces personnages qui avaient quand même pignon sur rue. Je dirais qu'à l'époque, et notamment quand on va poursuivre l'Ancien Testament, on va se rendre compte que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, c'était une noble tâche. C'était des gens qui avaient une place prépondérante et on ne pouvait pas faire grand-chose sans passer par eux. Ils étaient, c'est vrai, enseignants spirituels. On les connaît comme étant des gens qui faisaient des sacrifices pour le pardon des péchés, ça on le sait bien, mais ils jouaient aussi un rôle social, je dirais, ils jouaient le rôle de médecin aussi à certains moments. Je remercie le Seigneur que je ne vis pas à cette époque-là, parce que je serais obligé de vous dire, ah, vous avez une tâche là, viens voir, je vais regarder, et puis tu reviendras me voir dans 8 jours, et puis après, je te mettrai à l'écart pour voir si ça grandit ou pas, et je te dirai si c'est la lèpre ou pas. Et c'était ça aussi leur rôle, il ne faut quand même pas l'oublier. C'était une tâche noble d'être sacrificateur, c'était une tâche noble d'être réellement au service de Dieu en permanence. c'était aussi noble d'être aussi comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors après, on a eu effectivement les prophètes qui ont joué ce rôle, mais pendant longtemps, donc le sacrificateur était ce véritable intermédiaire entre Dieu et les hommes. J'ai regardé avec mon ordinateur, j'ai regardé le nombre de fois qu'on pouvait trouver ce mot sacrificateur au singulier ou au pluriel, et j'étais impressionné de me rendre compte que le terme était utilisé, à votre avis, combien de fois ?
1000.
Ah, c'est un peu plus que ce que lui m'a raconté. 764 fois, le mot sacrificateur est utilisé dans l'ensemble de la Bible. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, ça a une signification. Ça m'a d'autant plus touché que, quand vous allez regarder dans le Nouveau Testament, on va aussi en parler, et on parle en même temps que nous. Si jusqu'au milieu, je dirais au milieu du livre des Nombres, le rôle de sacrificateur semble être joué par un peu n'importe qui, voire peut-être plus particulièrement par des responsables de famille, au vu de l'agrandissement du peuple et au vu des tensions qu'il y a eu à l'intérieur du peuple, puisque certains ont dit pourquoi ça devrait être réservé à vous et pas à nous, il y a eu des véritables tensions. Et à partir de ce moment-là, donc, Dieu va changer un peu la donne et il va montrer une tribu qui deviendra la tribu des sacrificateurs. Et c'est notamment lors d'un miracle que dans Nombre 17, Dieu va définir que les descendants d'Aaron seront donc la tribu reconnue pour être la tribu des sacrificateurs. Nombre 17, ça vous dit quelque chose ? Comme ça, il faut le regarder, hein. faut regarder quand même ce qu'il y a dedans. Enfin, dans Nombre 17, c'est là où Dieu a demandé aux responsables des 12 tribus d'Israël de pouvoir poser un bâton, et un bâton donc dans le tabernacle. Et le lendemain matin, ils sont revenus, et quand ils sont revenus, un seul avait fleuri, c'était le bâton d'Aaron. Et c'est au travers de ce bâton d'Aaron qui avait fleuri que Dieu avait choisi la tribu dont Aaron était issu et qui était donc la tribu de... Alors comme je dis aux jeunes, là, je dis je suis désolé, il faut faire de la culture un petit peu de temps en temps. Et donc c'était la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi vous allez trouver, en particulier dans les évangiles, on va parler assez souvent des sacrificateurs et des lévites. Donc lévites, les descendants de Lévi. Et les lévites étaient aussi sacrificateurs, sauf qu'en fait on les a mis en deux, on les a séparés en deux clans différents, entre ceux qui faisaient les sacrifices et puis les autres qui œuvraient dans le temple sans obligatoirement faire les sacrifices. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'on va trouver. Ce que j'aimerais vous présenter ce matin, donc, c'est quelques versets bibliques qui vont parler des sacrificateurs pour le peuple d'Israël, mais aussi en ce qui nous concerne. Et puis, on va essayer de remplir un tableau ensemble en essayant de comparer ces différentes, ce qu'on appelle les différentes sacrificatures. Et puis, à la fin, donc, on va tenter de tirer quelques enseignements pratiques pour notre vie. Alors, un des textes que... Enfin, j'ai plusieurs, mais le premier texte que j'ai choisi va se trouver dans Exode 19. Exode 19, à partir du verset 3. Exode 19, 3 et les suivants. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant... Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Je vous rappelle bien ça. Pardon ?
C'est Jésus qui dit ça aussi.
Non, mais là, je suis dans l'Ancien Testament.
Oui,
mais c'est vrai. Ça rappelle le Nouveau Testament. On y viendra tout à l'heure. Hein ? Vous serez donc pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On va voir aussi l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et un peu plus loin verset 9. 1 Pierre 2 verset 5. L'apôtre Pierre donc va dire: vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et donc au verset 9, il ajoute: mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Intéressant, intéressant. Alors on va se promener un petit peu plus loin dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 5 et verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il a fait de nous, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu et Père, à lui la gloire, la force, etc. etc. Nous. Encore faut-il définir le nous. J'aimerais aller encore un peu plus loin, Apocalypse 5. Alors, Apocalypse 5, verset 9. Et verset 10. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et un peu plus tard, bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Hébreux 13, verset 15, je reviens en arrière. Hébreux 13, verset 15. C'est l'Épître aux Hébreux qui va nous inviter, qui invite les chrétiens à exercer leur sacrificature, tout en leur montrant comment ils doivent l'exercer. Il est dit: offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ou bénissent son nom. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir longtemps là-dessus. Quand on parle de louange, c'est le chant. Souvent, on est limité à cela. Mais en fait, là, on pourrait presque parler de l'évangélisation. D'accord ? Ou le témoignage. Ceux qui confessent son nom. Ou ceux qui bénissent son nom. Alors, est-ce que vous avez des stylos ? Je vous ai dit qu'on allait travailler. On a travaillé. Vous n'êtes pas contre, hein ? Ça va ? Non ? Ça va ? Peut-être même que vous êtes allé faire les courses ce matin, je ne sais pas. Bon. J'ai l'impression d'être cloué sur la chaire, là, il ne faut pas exagérer. Alors, au travers de ce qu'on a lu d'abord et au travers de ce que vous connaissez, il y en a encore, hein, bon. Au travers de ce qu'on a lu, au travers de ce que vous connaissez, au travers de votre culture chrétienne, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire une comparaison. Le Nouveau Testament va nous déclarer: nous sommes sacrificateurs. Pour être sacrificateur, normalement, il faut être issu de la tribu de Lévi. Qui vient de la tribu de Lévi ? Levez la main, s'il vous plaît. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Finalement, d'où on vient, on n'en sait rien, à vrai dire. Hein ? Sauf hier, j'ai eu quelque chose d'intéressant. J'ai appris hier qu'au Gabon, le Gabon étant un petit pays, en fait, les personnes se marient entre eux, j'allais dire, et ils arrivent à remonter très très haut dans les générations parce qu'il n'y a jamais eu d'importation de personnes de l'extérieur. Alors il dit, mais chez nous apparemment que les scientifiques aiment bien venir nous voir quand ils essaient de chercher dans les siècles passés parce qu'il y a un suivi qui est bien marqué. J'ignorais cela, mais voilà.
Les amis aussi.
C'est les amis, oui. Là c'est pour une autre raison, mais j'ai entendu hier qu'au Gabon ils étaient 1 500 000 ou quelque chose comme ça. Je dis, c'est tout. Bon. Voilà, il a dit qu'on était peut-être un peu, ils étaient un peu moins nombreux qu'en Lorraine. Alors, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant, puisque Dieu nous appelle comme étant des sacrificateurs, de pouvoir voir la relation qu'il y a et les différences entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament, Jésus et moi. Enfin, moi, vous, moi, hein, d'accord ? Donc, pour vous aider à savoir un peu là où je vais aller, je vais vous donner un exemple, et puis après, on tâchera d'avancer petit à petit. Si j'avais lu, et on n'a pas le temps, mais si j'avais lu Hébreux chapitre 5 et Hébreux chapitre 7, on aurait découvert déjà, dans ces deux chapitres, une comparaison entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et Jésus. Puisque l'Épître aux Hébreux est fait spécifiquement pour cela, de montrer la différence de l'Ancien Testament et avec la venue de Christ. Première chose que je dirais, en ce qui concerne les sacrificateurs sont des êtres humains. D'accord ? En ce qui concerne Jésus, qu'est-ce que je peux dire de lui ? Je peux dire de lui qu'il s'est fait homme. Vous êtes d'accord ? Et moi, voilà, je suis un humain parmi les humains. Voilà, là il y a déjà un point de parallèle qu'on va pouvoir trouver, presque. Il y a une petite différence avec Jésus, mais il s'est fait homme. Le deuxième que j'aimerais mentionner, qui me paraît aussi important, c'est qu'en fait, si tout au début de l'Ancien Testament, comme je le disais tout à l'heure, les hommes eux-mêmes étaient responsables de famille, etc., et jouaient le rôle de sacrificateur, on va voir au travers d'Aaron que les sacrificateurs ont été appelés par Dieu. Vous êtes d'accord ? Par ce miracle de cette transformation, de ce bâton, c'est Dieu qui a choisi, qui a appelé cette lignée de sacrificateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Jésus ? On a un petit peu de mal là, c'est pas trop.
Pardon. Il s'est envoyé.
C'est ce que j'ai écrit aussi. Les sacrificateurs ont été appelés par Dieu, Jésus il a été envoyé comme sacrificateur. D'accord ? Il a été envoyé. Et nous ?
On est appelé aussi.
Alors, on a été appelé, tout à fait. Après, la prédestination, on peut en parler, mais on a été appelé. J'ai noté aussi que nous avons été réconciliés. Réconciliés. Et c'est ça qui nous permet d'être sacrificateurs, parce que nous avons été réconciliés par Dieu, et j'ajouterai aussi que nous avons été adoptés. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. D'accord ? Quand un sacrificateur va exercer son rôle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avant d'entrer en entrant dans le tabernacle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se laver. Et il va se laver deux fois. Il va se laver avec de l'eau. Et la deuxième fois, c'est qu'il va se laver avec le sacrifice. C'est un pécheur lavé. D'accord ? Et c'est ce que je suis obligé de m'arrêter là, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, c'est d'un pécheur lavé. Jésus, par rapport au péché.
Sans péché.
Il est sans péché, il est parfait. D'accord ? Et moi ?
Pécheur justifié.
On est lavé par le sang de Jésus.
On est lavé, mais c'est plus que ça. Et c'est là où je voulais faire la différence, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que c'est un pécheur qui est pardonné et il est purifié. Alors c'est vrai que le terme laver est utilisé. Je voulais faire la différence. Pourquoi ? Parce que le sacrificateur, lui, c'était en espérance du vrai sacrifice qui allait venir. Alors que nous, nous vivons pardonnés et purifiés par le sang de Christ parfait qui est donc venu avant nous. Sacrificateur, je l'ai mentionné tout à l'heure. Le sacrificateur, donc tout le monde pouvait quasiment l'être au départ, mais il y avait cette tribu choisie, la tribu de Lévi. Ça m'intéresse de savoir que Dieu avait choisi une tribu particulière, Jésus. Jésus était-il issu d'une tribu particulière qui lui permettait de pouvoir être sacrificateur ? J'irai pas trop loin sur ce thème parce que une fois que je démarre sur le thème, je m'emballe et j'en ai pour longtemps.
Tribu de Juda.
Tu peux aussi le dire avec un sourire. Alors, Jésus faisait, et là c'est Hébreu qui va le traduire comme cela, Jésus faisait partie de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, qui était la tribu de Juda ? Alors, il y a un personnage qu'on connaît très bien de la tribu de Juda. C'est David, le roi David, et notamment ses descendants. Et Jésus est descendant de David. Faut pas qu'on l'oublie. Mais alors, la tribu de Judas, ça n'a rien à voir avec Lévi. Comment Jésus a pu-il être ordonné lui-même sacrificateur ? Donc, il était la tribu de Judas, et la tribu de Judas, c'était la tribu de la royauté. Mais Hébreu va le mentionner aussi, que Jésus sera aussi nommé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, je ne vais pas m'emballer, relisez Genèse 14 de mémoire, et vous verrez la suite. Et moi, je suis de quelle origine ? Moi, je ne sais pas, je suis païen, c'est tout, je suis païen. Le reste, j'en sais pas plus. Je disais tout à l'heure que quand il entrait à l'intérieur du tabernacle, il y avait donc ce rituel de lavage, mais il y avait un rituel d'habillement. Le sacrificateur avait un habillement spécial. De quelle couleur ? Ah, ça c'est intéressant. Mais ce n'est pas la première couleur qu'il mettait. Alors, la première couleur qu'il mettait, qui va revenir assez fréquemment, et on dit qu'il mettait des habits de fin lin ou fin lin retors à certains moments, et là on nous dit qu'en fait il revêtait un vêtement blanc. C'est le premier vêtement qu'il va enfiler sur lui. Après, effectivement, il avait des habits de couleur assez colorés. Avec moult détails, vous trouverez ça dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le souverain sacrificateur, il avait aussi ce qu'on appelait le pectoral, et là-dessus il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, etc. Il revêtait un vêtement blanc. En ce qui concerne Jésus,
il n'avait pas d'apparence.
Oui. C'est Isaïe qui nous dit ça, hein. Et tout à fait, il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait rien dans la vie de tous les jours qui le faisait dénoter des autres personnes de son époque. Malgré tout, on l'a revêtu d'une tunique avant sa mort, je dirais, et tunique de couleur royale. Mais l'Apocalypse va nous dire, Apocalypse 19, verset 13, va nous rappeler qu'il y avait un autre vêtement qui va le caractériser, c'est, et dont l'Apocalypse se souvient, c'est un vêtement teint de sang. Un vêtement teint de sang. Apocalypse 19, 3. Et nous alors ? Alors moi j'aurais espéré qu'en disant cela, vous aviez un petit chant qui allait vous revenir en tête. Alors moi j'ai pas d'habits spéciaux, j'ai même pas la cravate. Je suis pas désolé. Alors nous, est-ce qu'on a un vêtement spécial ? Un vêtement blanc. Pas un chant qui dit. Exactement. Voilà. Je savais que ça m'est revenu tout de suite en tête. Oui, c'est l'Apocalypse qui va nous le déclarer, que nous avons le vêtement blanc du pardon. Le blanc a toujours un lien avec la pureté, et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il revêtait, quand il s'était lavé, il revêtait ce vêtement de lin fin. Après, c'est pas si simple. Où est-ce qu'ils exerçaient leur ministère, ces sacrificateurs?
Dans le temps.
Dans le temps. On est d'accord.
Dans le temps qu'il y en avait. C'était autour du tabernacle.
Exactement. C'était le tabernacle, c'était le temple. Il y a des moments où c'était plus difficile parce qu'il a été rasé. Mais, dans la pensée première, il exerce son ministère dans le temple et pas en dehors. C'était dans le temple. Jésus. Il est partout. Mais il est le temple. C'est un peu ça qu'on peut dire. C'est qu'il est le temple. Et nous ?
Là où nous sommes.
Là où nous sommes. Tout à fait. Tout à fait. Mais, toujours dans la même idée, c'est que, et c'est Pierre qui va encore le mentionner, nous sommes les pierres vivantes de ce temple. Nous sommes, non ? Les membres de Christ. Nous sommes... L'édifice, voilà, nous formons l'édifice. Un parallèle qu'on va trouver aussi, c'est que les sacrificateurs étaient en permanence au service de Dieu. Jésus, il était au service de son Père, vous êtes d'accord ? Et nous sommes aussi au service de Dieu, service de notre Maître. Je ne suis pas sûr qu'on en soit toujours conscient. Mais c'est notre ministère. Comment se transmet la sacrificature? Le ministère. Comment ça se transmet? Dans l'Ancien Testament. Ah oui, c'est filial, hein, de père en fils. Hein. Pareil. Voilà, exactement. Exactement, de père en fils. Jésus.
Père en fils.
Voilà, voilà. Effectivement, c'est donné du Père à son Fils. Ah, et... Après, c'est nous. Et nous, comment nous est transmise, donc, cette sacrificature?
Par la conversion.
Exactement. J'aurais dit la même chose par la nouvelle naissance, la conversion. D'accord? Alors, on suit encore, ça va ? Qui est perdu ?
On essaie
de toujours par rapport aux sacrificateurs. Pardon ?
Moi j'ai une question. Là on parle des sacrificateurs, donc c'est un rôle particulier. Est-ce que nous on a un rôle particulier ?
Exactement.
Enfin, oui. Je veux dire, on n'est pas tous sacrificateurs.
Si, si, c'est ce que la Bible déclare.
C'est Pierre qui le déclare. Ce qu'on a lu.
Et c'est ça, et je suis très content de ta réaction, parce que c'est ça qui nous perturbe à certains moments. Parce qu'à certains moments, ce qu'on a fait à tort, c'est la Bible qui le déclare, c'est pas moi, ce qu'on a fait à tort, c'est qu'on a voulu réserver la sacrificature à certains personnages. D'accord ? Des pasteurs, particulièrement, des gens qui avaient une responsabilité dans l'Église. Mais le Nouveau Testament et le passage de Pierre a déclaré que nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs.
Grâce royale.
Exactement. Exactement. Je suis arrivé là où je voulais, je peux m'arrêter. Mais c'est ça qu'on a du mal de se rendre compte. Hein. Nous, on essaye, et c'est là où on a fait l'erreur, et on va critiquer personne. Hein. Nous aussi, on fait des erreurs. Je m'expliquais avec quelqu'un qui se pose plein de questions, un tatoueur de Nancy, qui me questionne assez fréquemment, et qui me disait, mais il y a plein de choses que je ne comprends pas, notamment quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans telle église, dans tel type d'église, etc. Pourquoi il y en a qui portent des habits de couleur et pourquoi pas les autres, etc. Et c'est là où j'étais obligé d'admettre que ce qu'on essaie de faire, et c'est là où on a la grande difficulté, ce que certains essayent de faire, c'est de pouvoir copier au maximum ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi dans certaines églises, on a des habillements, tu parlais du violet là tout à l'heure, on a des habillements qu'on va revêtir dans certaines circonstances parce que ça rappelle ce qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Et puis d'autres iront dans un autre sens en disant nous sommes complètement libérés de tout ça. Alors on balance tout, et puis on vient sans cravate, une chemise débraillée, certains même viennent prêcher en short et tout ça, et moi ça me choque, mais bon, d'autres sont choqués pour autre chose. Voilà, c'est cette prise de conscience que nous avons besoin. Je continue encore, si vous permettez. Pas longtemps, comme dit mon téléphone. Les sacrificateurs. Quand le peuple hébreu est rentré en Canaan, ils se sont divisés le pays. D'accord ? En combien ?
En 12.
En 12. En
13.
Tu sens bien qu'il y a... Je t'ai amené sur une pointe glissante, c'est ça. 12 ou 13
Une était divisée en deux.
Ouais,
une tribu.
Joseph est divisé en deux tribus.
Alors, 12 ou 13
13. Ah, il y en a
Ah, il y en avait une qui était quand même à part.
Il y
en avait une qui n'avait pas de pays.
Il y avait 11 moitiés et 12 qui étaient en deux moitiés.
Ah. Bon, on va je vais essayer de résoudre, j'ai peur de me tromper, mais je vais essayer de résoudre la question. En fait, j'en viens au fait qu'il y avait 12 tribus, 12, et ils ont partagé le territoire en 12. Sauf que les sacrificateurs n'avaient pas de territoire. Ils n'avaient pas de territoire. Ils avaient juste leur maison. C'est tout, point final. Et en fait, ils vivaient grâce à la dîme qui est donné au temple. D'accord ? Et c'est là où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand on a enlevé une tribu, il n'y en avait plus que 11. Mais on a fait une chose, c'est qu'au niveau de Joseph, on a pris ses deux enfants et on a appelé ça la demi-tribu
de Manassé
et demi-tribu d'Éphraïm. Mais en fait, quand on recompose tout ça, il y en avait toujours 12, on en a enlevé une et puis celle de Joseph. On l'a pris par son fils et puis on en a créé une douzième. Ah ben oui, on est d'accord. Merci. Merci. Voilà, pas de propriété terrienne sauf leur maison. En ce qui concerne Jésus, lui, le monde lui appartient, mais il est fils sur sa maison. Et nous ? Nous, la terre ne nous appartient pas.
Étrangers,
voyageurs sur cette terre.
Exactement. Fils adoptif et de passage sur terre. Le sacrificateur, il jouait le rôle de médecin jusque-là. Il jouait beaucoup de rôles, mais il jouait aussi le rôle de médecin. C'est lui qui déclarait si tu étais pur ou impur, enfin, etc. Mais en ce qui concerne Jésus, lui, il va guérir les maladies physiques et spirituelles. Les malades physiques et spirituelles. En ce qui nous concerne, et c'est là où on a peut-être un peu plus de mal, c'est que nous avons deux rôles à jouer. Le premier rôle, c'est juger en interne. On est appelé dans l'Église à pouvoir dire à un frère, d'après Matthieu 18, si ton frère a péché, va et reprends-le, etc. On est appelé à juger, non pas pour tuer, mais pour ressortir. Et à l'extérieur, il y a aussi une sorte de jugement qui se fait, mais des gens qui ne sont pas chrétiens, donc on va les évangéliser. Et c'est aussi notre rôle particulier à ce moment-là de pouvoir dire, mais sauvez-vous de cette génération perverse. D'accord ? Donc je parlais au départ que le sacrificateur avait aussi un rôle secondaire, c'était le rôle de médecin, etc. Et puis Jésus qui guérit les malades, nous, en ce qui nous concerne, on n'intervient pas, ni sur... Enfin, nous, c'est un jugement spirituel, je dirais. Et ce jugement spirituel, c'est un jugement externe, ceux qui ne sont pas chrétiens, jugement interne. Donc l'évangélisation, il y a un jugement interne, mais le jugement interne qui est toujours la pensée de juger de manière à amener quelqu'un du côté du positif. Le sacrificateur était marié. On se souvient que, notamment pour faire partie du Sanhédrin, Donc c'est 70 personnes plus le souverain sacrificateur. Il fallait obligatoirement aussi être marié, mais en général, les gens qui exerçaient ce travail étaient des gens mariés, en général. En ce qui concerne Jésus, pas un moment, mais il y a une épouse.
C'est fidèle l'Église.
Ah, exactement. C'est l'Église. Et nous, ben, c'est vrai que notre famille, nous avons pour certains une famille, tous ne l'ont pas, mais notre famille, c'est aussi l'Église. Un point qu'on a déjà vu tout à l'heure, je vais le mentionner d'une autre forme. Le sacrificateur, lui, il faisait les sacrifices pour avoir le pardon en espérance du pardon du sacrifice de Christ. D'accord ? Il sacrifiait dans l'espérance que Jésus allait s'offrir en sacrifice. Le sacrifice qu'il offrait à ce moment-là ne pouvait pas offrir un plein pardon, mais il le faisait, et ça c'est la parole qu'il déclare, il le faisait dans l'attente du sacrifice de Christ. En ce qui concerne Jésus, il est sacrificateur et sacrifice lui-même. Il a la double fonction. Et nous, en tant que sacrificateurs, c'est une des épîtres de Paul qui va nous rappeler que nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes là pour encourager les gens à demander pardon et à être réconciliés avec Dieu. Hébreux 7, verset 23, va déclarer encore que la sacrificature, elle était non permanente. Pourquoi ? Parce que les gens meurent. D'accord ? Et c'est Hébreux 7, 23 qui va le déclarer. Sa sacrificature est non permanente. Jésus. Elle est permanente. À perpétuité, est-il dit, hein, pour l'éternité. Et nous ?
Dès notre conversion, aussi...
Alors nous, ça commence à la conversion. On ne l'a pas à la naissance, on l'a à la conversion, et puis c'est le temps de notre vie ici-bas. On est d'accord ? Oui ? Non ? Peut-être ? Un des derniers points que j'aimerais aborder, c'est que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils avaient besoin d'une sorte de coordinateur, d'un chef, d'un, je ne sais pas comment on veut le voir, et ils avaient besoin d'un personnage qu'on appelait un souverain sacrificateur, qui avait un privilège énorme, celui d'aller derrière le voile et d'être en contact direct avec
le
Dieu.
Le lieu très saint.
Le lieu très saint, exactement. Là où il y avait, entre autres, l'Arche de l'Alliance. Jésus, il est... Il est le souverain sacrificateur et à perpétuité. Et nous, qui est notre souverain sacrificateur ? C'est Jésus. Alors, je suis pas allé aussi loin que j'aurais souhaité avec tout cela, mais je pense que c'est important pour nous de pouvoir nous rappeler qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. D'accord ? Et que notre rôle, et c'est un privilège, est de vivre cette sacrificature en permanence, de vivre cela pour Dieu. J'avais d'autres choses encore, mais je ne sais pas à quelle heure le culte se termine. C'est l'heure de terminer, hein ? Déjà depuis un quart d'heure. C'est ça. Je vais terminer quand même avec deux petites réflexions. Première remarque, un petit texte que j'ai lu. Notre souverain sacrificateur est entré dans les cieux et depuis, tous les chrétiens sont sacrificateurs dans un sens spirituel et céleste. Ainsi, une doctrine, quelle qu'elle soit, qui reconnaît ou établit une classe d'hommes sur la terre exerçant comme sacrificateur un office distinct de celui qui appartient à tous les enfants de Dieu, est une doctrine anti-scripturaire et fausse de toute manière. Le sacrificateur, ou même certains pasteurs imitent le sacrificateur de l'Ancien Testament, mais il n'est pas plus mais il ne l'est pas plus que tout chrétien né de nouveau.
D'accord.
C'est ce qu'on déclarait tout à l'heure, c'est que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Et là, on va parler, et c'est Watchmani, pour ceux qui le connaissent, qui va parler de la fameuse « Il n'y a pas d'église sans la sacrificature universelle ». Sans la sacrificature universelle. L'autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est que, et j'ai vu plusieurs personnes pleurer à cause de cela, et je pourrais le faire aussi moi-même, c'est que notre rôle et notre statut de sacrificateur n'est pas une garantie spirituelle, une garantie de l'engagement spirituel de nos propres enfants, même s'il peut y contribuer. J'ai dû intervenir plusieurs fois pour encourager certains parents et de pouvoir leur dire, même des hommes qui avaient pignon sur rue dans l'Ancien Testament ont eu des enfants qui ont été repris parce qu'ils faisaient des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Trois exemples, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui s'étaient emparés des brûle-parfums et qui moururent parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Luc 10, verset 1 à 20, si vous voulez noter. Les fils d'Élie, qui profitaient de leur place pour mettre de côté les bons morceaux des sacrifices, etc. 1 Samuel 2, verset 12 à 36. Et la parole de Dieu va déclarer quelque chose de terrible. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. C'est violent. Et puis, fils de Samuel, il est dit, dans 1 Samuel 8, verset 1 à 14, « Il se livrait à la cupidité. » D'accord ? Alors, quand on lit cela, on dit que c'est violent, mais c'est aussi une réalité, et notre réalité à nous, et peut-être beaucoup plus proche que ce que ça en a l'air. Ma conclusion, nous sommes des privilégiés. Notre statut de sacrificateur est bien meilleur que celui avant même le statut donné à Aaron. Nous sommes tous sacrificateurs et nous avons donc le privilège d'être en permanence dans la présence de Dieu. Deuxièmement, sans sacrifice d'animaux à offrir, il y a un coût pécuniaire en moins de manière considérable. Moi, j'ai toujours essayé de calculer, puis je me suis arrêté. Ça leur coûtait combien aux gens d'apporter leurs animaux? Vous voyez là ce matin venir avec un bœuf, on va trancher. Ça coûte combien un bœuf aujourd'hui?
Bien vendu 800 euros ou 900 euros.
Seulement quand on a pêché. Hein. Donc ça va, une fois par mois c'est bon. Non mais c'est ça. On n'arrive pas à considérer le prix du sacrifice de Christ. Quand on parle en euros, ça parle déjà mieux. Hein. Pardon ?
J'ai jamais pensé ça avant.
Mais oui, mais c'est quand même une réalité. Et je pense que dans leur vie de l'époque, ils n'avaient pas tous des milliers d'animaux comme ça sous la main qui pouvaient sacrifier. Une autre chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure. Il est dit aussi que les sacrificateurs devaient donner la dîme de la dîme. D'accord ? Même les sacrificateurs. Hein, si vous relisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il leur est demandé la dîme de la dîme. Nous, on n'est pas dégagés non plus de la dîme à offrir. On est appelé à ça, n'est-ce pas ? C'est la réalité à quoi le Seigneur nous appelle. Mais ce que le Seigneur nous demande surtout, c'est de savoir nous consacrer à lui d'une manière totale. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. C'est un jeune frère que je suis en train de former pour faire partie du conseil d'anciens dans notre église, et il a prêché trois fois, et trois fois il est revenu sur ce thème. Et trois fois, ça m'a touché. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis conscient que mon seul objectif, c'est de rester dans la présence de Dieu et de vouloir tout faire pour que Dieu soit glorifié. Je ne suis pas toujours sûr que ça marche chez moi. N'est-ce pas ? Alors, êtes-vous sacrificateur de Dieu ? On va prier. Seigneur, nous avons de multiples privilèges. Et je dois avouer que j'ai toujours du mal de pouvoir m'en rendre compte. C'est vrai, à l'époque du peuple hébreu, tellement de sacrifices étaient faits tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était toujours dans l'espoir, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'espoir de l'attente de ton sacrifice. Parfait, Jésus à la croix. Quel coût énorme, quel investissement pour le pardon des péchés. Mais nous sommes des privilégiés. Nous avons le sacrifice ultime. Nous avons la certitude de pouvoir être pardonnés. Et tout cela, gratuitement. Parce que tu t'es offert en sacrifice. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux de l'Ancien Testament. On pêche de la même manière. Peut-être même pire, je ne sais pas. Mais toi, tu pardonnes toujours. Donne-nous, Père, de ne jamais passer à côté de la possibilité de te demander pardon pour quoi que ce soit, afin que notre vie, que ma vie, soit toujours conforme à ta parole. Que ma vie puisse te glorifier dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Tu m'as donné l'honneur et le privilège de pouvoir être sacrificateur. Tu nous as donné à chacun ce rôle et permets, Seigneur, que nous soyons conscients de la valeur du cadeau que tu nous as fait en nous appelant sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Merci pour ce privilège. Amen.